Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Nous voulons aborder dans une perspective biblique les sujets qui nous touchent au quotidien.
C'est ainsi qu'aujourd'hui nous poursuivons notre série de discussions sur le thème de l'amitié. Cédric est de retour parmi nous pour nous en parler. Bonjour Cédric. La dernière fois, nous avons parlé de l'amitié qui liait le futur roi David à Jonathan. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre sur ce même sujet.
Oui, Yann, bonjour à tous. Lors de notre émission précédente, nous avons compris que bien des circonstances auraient pu empêcher cette amitié de se développer. Car Jonathan, le fils du roi Saül, aurait pu éprouver de la jalousie envers David que l'Éternel avait choisi pour devenir roi en Israël à la place de son père. Ce qui unissait ces deux jeunes gens, c'était leur foi, leur amour pour l'Éternel et leur soumission à sa volonté. Aujourd'hui, nous allons découvrir d'autres incidents graves survenus dans la vie de ces deux amis. Incidents qui auraient pu mettre en péril leur amitié. Et pourtant, malgré cela, David et Jonathan restèrent loyaux l'un envers l'autre.
Dites-nous donc ce qui s'est passé.
Souvenez-vous que l'Éternel, suite à la désobéissance du roi Saül, avait choisi David pour devenir le nouveau roi en Israël. Alors nous pouvons bien nous imaginer à quel point le roi Saül fut rempli de jalousie et de colère. Il voulait tuer David et pourchasser ce dernier dut prendre la fuite pour vivre en exilé, caché loin de ce roi.
Cela devait être difficile pour Jonathan, le fils de Saül, de constater la haine de son père envers son meilleur ami.
Effectivement, il a dû se sentir tiraillé entre sa loyauté envers son père et celle envers son ami.
Et comment a-t-il résolu ce dilemme ?
Bien, nous savons que Jonathan avait appris à faire confiance en l'Éternel. Il s'est donc laissé diriger par lui à travers toutes ses décisions. Jonathan savait que l'Éternel avait choisi David pour monter sur le trône à la place de son père, car ce dernier avait mal agi devant le Seigneur. Or, Jonathan aimait l'Éternel, il aimait sa justice. Il savait aussi que son père poursuivait David injustement. Vivre dans un tel contexte était douloureux pour Jonathan. Et pourtant, il décida que sa loyauté envers David était plus importante que celle envers son père.
Mais comment Jonathan a-t-il pu faire preuve d'amitié envers David dans de telles circonstances ?
Jonathan a pu aider son ami en l'avertissant des mauvaises intentions de son père et en l'aidant à prendre la fuite. Il a également défendu son ami en la présence de son père.
Jonathan ne risquait-il de subir aussi la colère de son père en agissant ainsi ?
Bien sûr, nous lisons dans la Bible qu'une violente dispute éclata entre Jonathan et Saül. Dispute durant laquelle le roi menaça son fils d'une lance.
C'est incroyable, mais cet incident a-t-il dissuadé Jonathan d'aimer son ami David ?
Non, pas du tout. Il a continué à prendre des risques afin de protéger la vie de David. C'est pourquoi il est venu le trouver un jour dans sa cachette, car il désirait lui porter secours et l'encourager. Mais nous en parlerons davantage la prochaine fois.
Oui, mais en attendant, que devons-nous apprendre de l'exemple de Jonathan ?
Une question se pose. Comment réagir lorsque l'un de nos amis se trouve confronté à la malveillance d'un ennemi alors qu'il n'a rien fait de mal et qu'il est innocent ? Car notre ami peut subir la haine d'une personne remplie de jalousie envers lui, être victime de fausses accusations ou de rumeurs mensongères. Ses biens, sa vie peuvent même être menacés.
Oui, je pense que nous avons tous pu vivre au moins l'une de ces situations, mais que faire alors ?
Il serait tentant, dans de telles circonstances, de vouloir prendre de la distance et de délaisser son ami, de peur de rencontrer nous aussi des ennuis. Mais réfléchissons un instant. Comment ressentirions-nous la chose si nos amis nous abandonnaient juste au moment où nous avons le plus besoin d'eux ?
Oui, je vois où vous voulez aller. Et Jonathan nous montre donc l'exemple à suivre. Il fait des choix difficiles et s'expose au péril. Afin de défendre et de soutenir son ami David.
Oui, tout à fait. Les qualités d'une véritable amitié, telles que la loyauté, la fidélité, la constance, peuvent être rudement mises à l'épreuve. C'est d'ailleurs dans les moments difficiles que l'authenticité d'une amitié se révèle. Pour demeurer un véritable ami, il faut par moments savoir se montrer courageux.
Cédric, il est évident que David était poursuivi injustement. Il était victime de la méchanceté d'un homme amer et impossible à raisonner. Mais que faire si un de nos amis a des ennuis avec une personne et qu'il est au moins en partie ou même entièrement responsable du fait de sa mauvaise conduite?
Oui, c'est une bonne question. Encore une fois, on pourrait penser qu'il serait de notre droit d'abandonner notre ami, si logiquement il mérite les conséquences de ses actes. Je pense toutefois qu'un ami loyal et fidèle agit autrement. Si nous constatons par exemple qu'un ami prend un chemin qui risque de lui amener des ennuis, il serait bon de l'en avertir et de chercher à le raisonner. Si notre ami vit des conflits avec d'autres à cause de sa conduite, il serait bon de lui conseiller de se repentir et de changer de comportement, de rechercher le pardon et la réconciliation auprès de celui ou ceux qui l'a offensé.
Ainsi, nous constatons qu'un véritable ami ne fuit pas devant les problèmes que son camarade peut rencontrer. Il recherche plutôt la meilleure façon de lui venir en aide.
Voilà un bon résumé de l'attitude de Jonathan.
Et nous poursuivrons notre discussion sur le thème de l'amitié liant David et Jonathan la prochaine fois. Merci Cédric.
Merci Yann et au revoir à tous.
La Bible se sert souvent d'illustrations, choisies à partir de thèmes de la vie ou prises dans la nature pour nous aider à comprendre la façon dont nous devons vivre notre foi. Depuis plusieurs émissions, nous réfléchissons sur des textes contenant pour illustration celle d'un arbre.
C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un texte qui se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 9. Puis sur un autre, au chapitre 3, verset 22 à 24. Hélène va lire ces deux textes, ensuite Jaffa nous fera part de ses réflexions.
L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, d'aspect agréable, portant des fruits délicieux. Et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal.
Entre ce premier texte et le deuxième que nous allons lire dans un instant, un événement tragique a lieu. Adam et Ève désobéissent à l'Éternel en mangeant le fruit d'un arbre interdit, celui de la connaissance du bien et du mal. En conséquence, l'Éternel prononce une série de malédictions qui vont s'abattre sur l'humanité entière.
L'Éternel dit : Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour le choix entre le bien et le mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie.
Jaffar, à travers ces deux textes, nous découvrons le début de l'histoire de l'humanité. Les arbres dépeints dans ce récit occupent une place importante. Or, ils ont réellement existé puisque ce récit est historique.
Vous avez raison, Yann, de souligner cela. Toutefois, le plus important pour nous aujourd'hui est de discerner les vérités spirituelles qui en découlent et de comprendre la signification de ces faits réellement vécus. Nous allons donc nous concentrer sur l'arbre nommé l'arbre de vie.
Dites-nous ce que vous savez de cet arbre.
Selon le deuxième texte lu, Adam et Ève auraient pu vivre éternellement s'ils avaient mangé du fruit de cet arbre, car ce fruit leur aurait accordé l'immortalité. Il leur aurait permis de vivre sans jamais rencontrer les effets effrayants de la mort.
Mais selon le deuxième texte, l'Éternel empêche les hommes d'avoir accès à cet arbre. Pourquoi? Et quelles en sont les conséquences?
Pourquoi? Parce qu'Adam et Ève ont fait le mauvais choix. Un choix engendrant des conséquences tragiques et malheureuses, s'abattant non seulement sur eux-mêmes, mais aussi sur tous leurs descendants, dont nous-mêmes. Souvenez-vous que l'Éternel avait placé un deuxième arbre dans le jardin, un arbre dont le fruit était interdit. Cet arbre se nommait la connaissance du bien et du mal. Cependant, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, le diable déguisé en serpent avait convaincu Adam et Ève des prétendus bienfaits de ce fruit, c'est pourquoi ils en ont mangèrent. En y goûtant, Adam et Ève, qui avaient pensé beaucoup gagner, ont en effet beaucoup perdu. Peut-être ce dont ils furent privés de plus important est du droit de manger du fruit de l'arbre de la vie. Cela revient à dire qu'ils perdirent la possibilité de vivre éternellement. Autrement dit, Adam et Ève allaient tôt ou tard mourir. Quelle tragédie!
Vous avez mentionné tout à l'heure le fait que les conséquences du mauvais choix d'Adam et Ève retombent aussi sur chacun d'entre nous, quand nous sommes tous privés de l'accès à cet arbre de la vie, quand nous sommes tous destinés à mourir un jour. Est-il alors juste de payer pour la faute d'un autre?
Cela serait effectivement injuste si nous étions différents d'Adam et Ève. Mais qui peut affirmer avoir toujours fait le bon choix dans sa vie? Qui peut certifier n'avoir jamais enfreint d'interdit? Qui peut assurer ne s'être jamais laissé tenter par ce qui est en apparence beau et attirant, mais en réalité s'avère trompeur et dangereux?
Personne. Et en ce qui me concerne, je l'admets volontiers. Je ne vaux guère mieux qu'Adam et Ève. Je n'ai jamais rencontré personne qui peut prétendre l'être.
Oui, c'est une réalité bien triste. Adam et Ève ont mérité leur sort. Comme nous, nous le méritions aussi.
Ainsi, depuis des millénaires, l'humanité est ravagée par le péché et toutes les conséquences qu'il engendre. La mort aussi, ce destin fatal, pèse irrémédiablement sur chacun d'entre nous.
C'est exact. Mais je voudrais conclure sur une note d'espoir. Ce que nous avons lu à travers le livre biblique de la Genèse constitue le début et non la fin de notre histoire. La prochaine fois, nous parlerons de nouveau de l'arbre de la vie, car il est mentionné vers la fin de la Bible dans le livre nommé l'Apocalypse. Et selon ce livre, il sera encore possible de manger du fruit de cet arbre, car l'Éternel en donnera à tous ceux et celles qui auront cru au Seigneur Jésus-Christ. Ces personnes connaîtront la vie éternelle, c'est pourquoi, devant la réalité de la mort, ne désespérons pas. Mais tournons-nous plutôt vers Jésus-Christ afin de recevoir son pardon et son salut. La vie éternelle nous sera ainsi accordée.
Quelle belle espérance! Et nous en parlerons davantage lors de notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui.
En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.